Bienvenue auditrices et auditeurs à cette émission. Le monde célèbre chaque les 3 mai de l'année la journée internationale de la liberté de la presse. Cette journée est donc l'occasion pour les professionnels des médias de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, évaluer la liberté de la presse, défendre les médias des attaques contre leur indépendance, ou se souvenir des journalistes tués parce qu'ils faisaient leur devoir, celui d'informer. Aujourd'hui dans notre émission, nous allons tenter d'évaluer la liberté de la presse à Kisangani et dans la province de la Tchopo. Pour en débattre, je reçois dans ce studio Magloire Bolunda, directeur de la radio OPED FM, une chaîne de radio privée émettant ici à Kisangani et membre du comité provincial de l'UNPC. Magloire, bonjour.
Bonjour Laura Kabissa.
À ses côtés, Ernest Moukouli, coordonnateur de l'ONG MEPAD, Média pour la paix et la démocratie, une organisation qui milite pour les droits des journalistes. Il est aussi rédacteur en chef du journal Mongongo. Ernest, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs.
Nous devrions aussi y avoir dans ces studios Pierre Kibaka, qui est un acteur de la société civile. Malheureusement, il s'est excusé à la dernière minute. Vous allez suivre les interventions du professeur Alphonse Maindo, qui est professeur ici à l'université de Kisangani. Devant les micros, Laurent Kangisa pour l'animation de cette émission.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de baïonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu.
L'ONG Reporters sans frontières a publié récemment son classement sur la liberté de la presse pour cette année 2016. La RDC perd des places par rapport au classement 2015. Elle passe donc des 150 à la 152e place. Elle est classée parmi les zones rouges où la liberté de la presse est violée. Pourtant, la Constitution du 18 février 2006, en ses articles 23 et 24, garantit la liberté de la presse. Mais aussi, les pays ont ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'article 19 de cette déclaration stipule, je cite, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique les droits de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération des frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. » Fin des citations. Alors, par rapport à cette garantie, quelle est la situation de la liberté de la presse ici et dans la Tchopo? Et là, je ne sais pas, parmi vous deux, qui va se jeter les premiers dans l'eau, Ernest?
Merci Laurent pour nous avoir associés à cette table ronde. Je salue Magloire Bolunda qui est à mes côtés. La situation de la liberté de la presse dans la province de la Tchopo, pour ne pas parler de la province orientale, l'ex-province orientale. Elle est, nous pouvons le dire sans mâcher les mots, elle est aussi critique. C'est pas parce qu'on ne rapporte pas cela, mais c'est parce que les échos qui nous proviennent, surtout des médias officiels, aussi de certains médias privés, que ce soit dans les centres urbains comme Kisangani et dans les territoires, font état de plus en plus de menaces, de pressions administratives, de différentes atteintes à la liberté de la presse qui restent malheureusement jusque-là peu connues ou mal connues. Bien sûr, nous pourrions peut-être rentrer encore dans les détails avec les cas précis, bien sûr.
Ouais. Vous pouvez nous citer quelques cas, parce que vous dites que ce sont des cas, les échos que vous recevez, que ce soit ici à Kisangani ou encore à l'intérieur de la province. Est-ce que vous pouvez illustrer quelques cas où on vous a fait rapport des cas de violation des libertés des presses?
Et sans pour autant citer les noms des confrères ayant fait l'objet de ces violations, mais aussi de certains médias, mais nous pouvons commencer d'abord par la radio officielle, la RTNC. La RTNC, les échos à notre possession en tant qu'une organisation qui milite pour la promotion de la liberté de la presse dans la province orientale, donc la province de la Tchopo, on parle plus des pressions administratives.
Sur les journalistes.
Sur les journalistes. Ces pressions sont faites à cause du travail du journaliste. Ce n'est pas lié aux fautes administratives. Non, on fait pression aux journalistes, aux responsables de la rédaction, aux responsables des éditions, parce qu'il a accepté de faire passer un élément sonore, un point de vue. Et à cause de ça, il y a des gens qui sont suspendus, des fois illégalement.
Et quand vous dites, par exemple, les journalistes reçoivent des pressions, ces pressions viennent de la hiérarchie ou bien c'est une main noire ou une main politique qui exerce cette pression sur les journalistes?
Vous savez, nous avons eu à échanger avec beaucoup de journalistes de la chaîne officielle. Nombreux attestent qu'ils subissent les pressions. Ça s'observe auprès de leurs responsables et directs, mais ce sont des injonctions qui viennent de l'extérieur. Vous voyez, il y a des suspensions qui se font à partir du téléphone. On peut suspendre un journaliste par téléphone. Vous voyez, à quel niveau on est en train de saper l'honneur même de la profession. Et ça, ce sont des cas récents. Mais dans les radios, dans les médias privés, c'est pire que ça. C'est pire que ça.
Magloire Bolunda, vous êtes directeur d'une chaîne privée.
Oui.
Alors, vous avez suivi Ernest de dire que la situation est pire au niveau des médias privés. Est-ce que vous pouvez attester cela?
Je ne sais pas à quoi Ernest fait allusion lorsqu'il dit que la situation est pire dans les chaînes privées. Est-ce de la situation liée à la liberté de presse, à la liberté d'expression des journalistes? J'aimerais qu'il précise pour que je puisse interagir dans le vrai sens du terme.
Vous savez, au niveau des presses privées, particulièrement les radios, le fait que l'équipe est réduite, ajoutez à cela la précarité des conditions de travail, les journalistes sont exposés à toutes sortes de menaces, des violations de leur liberté. Les pressions administratives se font d'ailleurs, ça passe inaperçu, ma gloire.
Oui, Ernest, voilà. Je crois que la précarité des conditions de travail n'est pas une raison valable pour qu'il y ait violation de la liberté de presse. Mais je crois plutôt que je vais rentrer dans le contexte que Laurent a abordé dès le départ. Quelle est la situation du journaliste dans la ville de Kisangani et dans la province de la Tchopo? J'aimerais bien me focaliser sur la ville de Kisangani parce que c'est mon milieu de travail, d'abord. Moi, je crois que la violation de la liberté de presse est visible. Cela s'est traduit par certains signes qui prouvent assez que le journaliste n'est pas libre de faire son travail comme il se doit. Il y a deux menaces. Et là, j'aimerais préciser, parce que je crois qu'Ernest n'a pas voulu le dire clairement, les menaces souvent viennent des autorités politico-administratives, qui ne veulent pas qu'on touche leur domaine d'intervention, leur domaine d'exercice de fonction. Et lorsqu'il y a des magouilles qui se manifestent, il y a des informations qui ne leur sont pas favorables, ils ne veulent pas que les journalistes abordent ça. Ça, c'est une violation des droits de presse, parce que là, les journalistes n'est plus libre de faire son travail. Il y a des menaces liées aux promoteurs même de radio,
des médias.
C'est la malchance que nous avons dans la ville de Kisangani. Presque toutes les radios appartiennent à des gens qui sont soit des églises, soit des politiques. Ce qui revient à dire qu'il y a déjà au niveau même de la création des médias, au niveau même de la conception des médias, des restrictions à ce qui concerne la liberté de presse. Donc c'est à plusieurs niveaux que cela s'observe.
En fait. Et là vous donnez raison à Ernest quand il dit qu'au niveau des presses, des médias privés, la pression des menaces sont beaucoup plus sur les journalistes. Vous venez de donner les cas des radios tenues par exemple par les politiciens.
Oui, je suis pas d'accord que ce soit uniquement dans les radios privées, c'est dans toutes les chaînes officielles comprises. Parce que je crois que cela est même plus fort, très fort dans la chaîne officielle qui dépend directement des politiques au vrai sens du mot. Là, on va pas mâcher nos paroles, on va pas les cacher. Les radios privées, je crois qu'elles subissent cette pression, mais je crois qu'elle est plus forte dans la chaîne nationale. Je crois qu'Ernest a soulevé un point, c'est récent dans la vie de Kisangani. Tous les journalistes savent quelque chose là-dessus. Des gens qui ont été suspendus pour des raisons qu'on n'a jamais connues. et qui ont été réhabilités, nous ne savons pas pourquoi. Et plus grave, la suspension a été verbale.
Les dossiers, les cas a fait l'objet d'une réunion extraordinaire du comité provincial de l'INPC, au sein duquel Magloire et moi nous sommes membres, n'est-ce pas, associés à la commission d'éthique professionnelle. Et les cas a été abordé. C'est-à-dire, c'est sérieux. Même s'il n'y a pas des actions de grande envergure, il n'y a pas de réplique du côté de la corporation. Professeur, peut-être on pourra aborder dans la chute de l'émission pour voir les pistes de solution. Mais c'est qui est sûr, même s'il n'y a...
Mais aucun... quand vous dites par exemple qu'il n'y a pas de riposte, moi je me souviens, à la RFO déjà, il y avait une certaine pression qui était exercée, hein, parce que et chaque jour dans notre journal, on dénonçait déjà cela, on comptait déjà le nombre de jours et que les journalistes étaient suspendus. Et on a vu quelques temps après, les autorités sont revenues. C'est pour dire que quelque part, les médias aussi étaient solidaires face à cette action.
C'est un geste à saluer. Et la pression dont je venais d'aborder, d'évoquer, c'est en rapport avec, au niveau des corporations, au niveau des organisations des médias. Vous voyez, c'est une bonne chose en termes de solidarité entre confrères, entre médias, qu'on puisse aborder, qu'on puisse en parler. Je me souviens encore, la RTA, Radio Télé-Amani, avait été suspendue pour avoir dénoncé les violations, les atteintes à la liberté de la presse qui s'observaient au niveau de la chaîne officielle. Vous voyez, cette solidarité, c'est à entretenir. C'est une solidarité à pouvoir vitaminer Flambeau de Lorient et Coup de Chapeau pour à ce sujet.
Il y a un point que Ernest a soulevé par rapport à la situation même des journalistes, la situation socio-professionnelle. Est-ce que Magloire, vous ne pensez pas que le fait, par exemple, de prendre les journalistes pendant beaucoup plusieurs années sans signer un contrat de travail, sans un paiement à la fin du mois, est-ce que toutes ces conditions-là ne mettent aussi pas les journalistes dans une situation d'insécurité?
Oui, il est vrai que lorsque le journaliste travaille et qu'il n'est pas bien payé, qu'il n'est pas sécurisé par un contrat de travail, c'est vrai qu'il est en insécurité par rapport à lui-même et par rapport à l'externe. Mais je doute que cela soit une raison qui fait à ce que la liberté de presse soit violée. On peut ne pas avoir un salaire, on peut ne pas avoir une vie décente, être riche, mais on a ses convictions, on a ses opinions qui doivent être dans la ligne droite pour ne pas violer le prescrit de son métier. Moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on se sent en insécurité, lorsqu'on sent qu'on ne peut pas évoluer dans un contexte où on n'est pas libre de s'exprimer, c'est mieux de se retirer. Parce que vous risquez, à longueur de temps, de biaiser l'image de ce que vous faites comme métier. Moi, je crois à un certain niveau que cette histoire de conditions de vie des journalistes n'a pas vraiment de rapport avec la liberté de presse, n'a pas un rapport avec la liberté d'expression. Mais à quel niveau cela devient a un impact? C'est lorsque le journaliste, ne se sentant pas pris en charge par son employeur, cherche maintenant à se prendre en charge. Là, il y a une entorse, il y a un problème qui guette à l'horizon.
Vous avez quelque chose à ajouter, Ernest?
Oui, oui, oui. Vous voyez, les caractères, la complexité même de la profession journalistique, voyez, son caractère libéral mais complexe, nécessite un certain minimum des conditions de travail. Voilà. Et ça, c'est l'évidence.
Mais
ici, on ne peut pas proposer ces chèques en blanc aux responsables des médias pour avoir balancé une information, pour avoir reçu quelqu'un qui n'est pas d'obédience du promoteur des médias et automatiquement les journalistes doivent perdre son poste. C'est par là où ça pêche. Voyez. Donc, on peut créer autant de médias, tout le monde est appelé à créer un organe de presse. Mais c'est question de se conformer à la loi, surtout de tout faire pour que chaque population puisse accéder à son droit à l'information. Et le droit à l'information, ce n'est pas lié seulement à l'information qui achante l'autorité, non plus le promoteur de médias. C'est l'information qu'on met à la disposition du public, quitte à chacun d'auditeurs, de téléspectateurs, de lecteurs, de pouvoir faire son jugement. Mais lorsque, ici chez nous, telle autorité, tel collaborateur de tel, soit ministre, soit gouverneur, soit député ou mandataire public, se sent lésé par le sujet ou le propos d'une personne, d'un adversaire politique, directement on s'acharne aux journalistes, des menaces au téléphone. Et des fois même, on l'observe dans certaines manifestations ici, localement, on s'en prend même aux journalistes. Je me souviens, il y a quelques mois, un élément de la police avait bousculé un journaliste en plein reportage.
Voilà, ça c'est vrai, c'était le 4 janvier.
Je vous assure, si c'était hier, c'était ces journalistes, demain ça sera l'un de nous ici. C'est pourquoi il est temps que la communauté de la ville de Kisangani, de la province de la Tchopo, qu'elle puisse progressivement avoir cette culture des médias, que les journalistes, c'est parmi les êtres sacrés à protéger, non seulement par les journalistes, et aussi par la population, par les autorités, parce que sans nous, ils ne seront pas informés.
Vous êtes tous responsables, et Magloire est responsable des médias, vous êtes responsable d'une structure qui milite pour la promotion des journalistes. Il y a un point que vous avez évoqué tantôt par rapport à la situation qui se passe au niveau, par exemple, des médias qui sont tenus par les politiciens. Et là, vous n'avez pas vraiment illustré. Qu'est-ce qui se passe au juste au niveau de ces médias?
Oui, Laura, moi, j'aimerais être plus précis. Lorsque un politicien met en place un média, quel est l'objectif qu'il poursuit? L'objectif qu'il poursuit, c'est de soigner son image, c'est de faire passer ses opinions. Et là, il ne tolère pas que d'autres viennent diffuser sur son chaîne des histoires qui ne concernent pas lui. Et donc, si un journaliste va à la compte de ses opinions, de sa façon de voir les choses, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Et le journaliste est obligé de faire plaisir à son promoteur, à son employeur. Et donc, le journaliste est
d'orienter l'information,
il est bloqué
pour faire plaisir à son chef.
Plaisir à son chef, il est bloqué. Il ne peut pas aller en dehors de ce que son chef lui impose. Il y a même des promoteurs qui exigent avoir les papiers qui sont diffusés. Et si le papier n'est pas de son obédience, il les déclasse tout simplement. Là, le journaliste est bloqué. Mais je voulais, avant que je n'approfondisse ça, revenir un peu en arrière. En fait, moi je crois que la liberté de presse, la liberté d'expression est bloquée déjà dès le départ par la loi en République démocratique du Congo. Pour mettre en place, par exemple, un média. Voyez les montants qui sont exigés pour mettre un média en place. Je peux donner des chiffres rapidement.
Allez-y.
Pour un média communautaire, radio-télé, communautaire rural, on vous demande plus de $28,000. Et si c'est une radio-télé commerciale, vous êtes au-delà de $60,000 de taxes. Déjà à ce niveau, on bloque les gens de bonne volonté à mettre en place des médias qui peuvent donner la bonne information aux auditeurs, à la population. Il y a déjà blocage au niveau même de la mise en place des médias, de la création des médias. Et là, c'est pas n'importe qui pourra mettre en place un média, ce sont les hommes qui ont beaucoup d'argent, et entre ces hommes, il y a les politiques qui peuvent avoir des matériels, qui peuvent commencer à émettre sans passer par ces taxes parce qu'ils ne payent pas. Je suis un exemple très très vivant de cette manœuvre des politiciens pour mettre en place des médias. Ils ne payent pas. Et du coup, les chevaliers de plumes, les journalistes qui peuvent mettre en place des médias impartiaux ne sont pas en mesure de se lancer dans cette aventure pour mieux informer la population et faire des informations qui tiennent compte de la logique même de la déontologie du journaliste.
Par rapport à cette question, vous ne pensez pas qu'il y a un paradoxe? Parce que si on voit par exemple la réalité sur le terrain, le nombre des médias et par rapport au montant qui est demandé, mais il y a même beaucoup de médias qui fonctionnent. Si on prend par exemple les paysages médiatiques dans la ville de Kisangani, on est déjà au-delà des 10 radios et télévisions dans la ville de Kisangani.
Je suis d'accord, mais qui sont les promoteurs de ces radios? Il y a plus de 10 radios, d'accord, mais qui sont les promoteurs à part les églises et les hommes politiques?
Ernest?
Récemment, dans une communication, je crois bien officielle, et le chef de division de l'information et de la communication l'avait bien dit. Beaucoup des médias qui ne sont pas. Ils devaient être fermés.
Oui.
Notamment aussi ceux qui sont tenus par les politiques. Parce qu'ils ne répondent pas aux normes. Soit, dès le départ, lorsqu'on veut lancer la radio, et c'est la division qui est surpris d'entendre une radio fonctionne. Et des fois même, les services qui attribuent les fréquences. Mais je voulais revenir sur la question de la présence des hommes politiques, les gens qui s'intéressent, qui ont des mandats politiques. Je crois bien d'abord, c'est une avancée à saluer. Pourquoi? Parce que pour tenir les médias, il faut disposer vraiment des sous. Hein? Les médias, c'est le luxe. C'est le luxe.
Et malheureusement, hein? Les journalistes ne sont pas payés. Par exemple,
c'est pas tellement dans ces médias, de manière générale. Il y a de ces médias là où quand même ces promoteurs parviennent à payer le minimum. Hein? Contrairement à d'autres médias là où on n'en trouve même pas. C'est selon les rumeurs, les humeurs des gens qu'on arrive à payer. Mais dans certains médias privés ici, les gens sont payés à la fin du mois. Et certains nous écoutent à ce moment-ci. Ça, c'est un effort. Mais à quel niveau ça couaque? C'est au niveau de la compréhension des règles du jeu de la profession. Vous voyez, toute personne qui se lance dans ces domaines devrait d'abord rassurer l'État congolais qui maîtrise lui-même, elle-même, les normes.
Les normes du monde médiatique.
Voilà. En commençant par la loi sur l'exercice de la presse dans notre pays. Aussi et surtout les codes d'éthique et de déontologie professionnelle, sans oublier les responsabilités sociales. Il y a de ces gens qui créent les médias ici, en ayant en tête que ça, c'est juste pour moi. Tout ce qui me concerne, tout ce qui m'achante, qui sera diffusé. Mais ces gens, si on n'arrive pas à leur prêcher, et c'est le rôle même de celui de l'État, qui devait leur dire, bien sûr, les organisations professionnelles aussi devaient mener des campagnes, pourquoi pas des plaidoyers, afin que les promoteurs des médias ne puissent pas avoir de l'influence directement sur la politique rédactionnelle journalière, n'est-ce pas? On peut comprendre pour la conception de la ligne éditoriale, mais pour ce qui est de la survie des émissions à caractère de domaine plus salutaire, on ne peut pas toujours avoir les promoteurs de les dos. C'est compliqué. Et nous avons des journalistes qui cultivent de plus en plus, Laurent, l'autocensure. Ça prend de l'ampleur. Il y a de ces sujets auxquels les rédactions n'osent même pas en parler. Non, pas là-bas. S'il plaît, pas là-bas.
Pensez que c'est les journalistes lui-même aussi est devenu un blocage pour sa liberté.
Non, pas un blocage. Le journaliste essaie de protéger sa peau, papa.
Oui, Ernesto.
Essaie de protéger sa profession, essaie de protéger son poste.
C'est le point que je voulais en fait aborder.
Sa profession, n'est-ce pas?
Moi,
même si
Ernest,
c'est un recul.
Oui, moi, je crois que le journaliste lui-même est aussi blocage à son métier. Sous plusieurs aspects, à plusieurs niveaux. C'est vrai qu'on parle des autorités, on parle des promoteurs, mais je crois que quelque part, il y a une responsabilité qui incombe au journaliste lui-même. Je prends un aspect, le clientélisme dans les métiers. Le journaliste, il court derrière les hommes politiques, derrière les hommes des dieux, et à leur niveau, ils deviennent bloqués, ils ne savent plus donner une vraie information par rapport aux gens qui leur tendent la main. Et ça, on le constate. Et lorsqu'il y a clientélisme, ces journalistes deviennent en même temps des espions pour les autres journalistes. Il suffit de diffuser une information qui ne fait pas plaisir à telle tête ou à telle personne, et les journalistes clients, espions entre guillemets, donnent la vraie information, l'identité de la personne qui a diffusé l'information. Les journalistes mettent ses amis journalistes en danger, et donc nous sommes aussi responsables quelque part responsables de la violation des droits de la presse.
On va
bien
évoluer.
Attendu, mais si je peux juste une seconde, Magloire. C'est une opportunité, c'est une chance pour une rédaction d'avoir des journalistes qui ont des contacts faciles avec les politiques. C'est pas une fatalité.
Oui, non, Ernest, je ne parle pas de contacts, je parle de clientélisme.
Oui, le clientélisme, c'est différent. De plus de responsabilités vis-à-vis du public, n'est-ce pas? Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est question d'avoir des nerfs solides pour comprendre les finalités d'une information. Mais malheureusement, ce n'est pas la source d'information qui constitue une finalité d'une information. C'est plutôt le grand public qui nous suit.
Ernest, on va évoluer. On va suivre d'abord la lecture faite par le professeur Maïndo, qui n'est pas du métier. Il va nous donner sa lecture par rapport à la liberté de la presse ici dans la province de la Tchopo, à Kisangani, et pourquoi pas dans les pays, nous allons les suivre.
Si vous voulez parler de la liberté de la presse en province de la Tchopo, il faut se mettre d'abord dans le contexte général du Congo. Et le contexte général du Congo, vous pouvez aller au-delà, le contexte sous-régional et africain de la liberté de la presse. Et là, on verra que le contexte est quand même assez sombre, hein, de manière générale. Le Kisangani ne fait pas exception. Vous savez qu'il y a eu certains journalistes qui ont été suspendus ou relevés de leurs fonctions ici dans cette province pour leur travail simplement qu'ils ont essayé de faire. La liberté d'abord, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Ce n'est pas une faveur qu'on va vous attribuer. Il faut la gagner des hautes luttes. Alors, mais il faut comprendre aussi pour certains médias. Quand vous travaillez dans un média public, vous ne pouvez pas tenir n'importe quel propos. Puisque les médias publics ici dans la ville de Kisangani sont sous l'autorité du régime, du système. Donc si vous voulez vous donner votre micro ou votre caméra à des gens qui sont perçus comme des opposants ou quoi, Et s'ils disent quelque chose qui gêne un tout petit peu les régimes en place, vous, journalistes, vous êtes en difficulté. Alors, journaliste, vous pensez à votre métier, vous pensez à votre survie, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? S'il y a un problème de conscience, là, de se dire, voilà, soit je me prive de mon gagne-pain, soit je garde mon gagne-pain. Alors, on va essayer de trouver des accommodements. Alors, mais il y en a d'autres aussi qui sont dans des médias privés. Alors, quand vous êtes dans un média privé, il y a certains médias qui sont même plus contraignants que des médias publics. Vous avez vous avez presque un gourou ou des gourous à la tête de ces médias-là qui n'acceptent pas qu'il y ait telle voix qui passe sur leurs médias. Donc chaque propriétaire des médias, et ça ce n'est pas exceptionnel pour le Congo, quand on voit par exemple ce que Berlusconi a fait avec les médias en Italie, on ne peut pas du tout faire trop de critiques sur certains propriétaires des médias congolais ou boyomé ici. Je peux vous donner d'autres exemples. Hein. Je vous donne l'exemple là de Berlusconi en Italie pour vous dire qu'on est là dans un pays qui est dit démocratique. Vous qui êtes plus ou moins démocratique que nous, plus démocratique que nous. Voilà. Donc, et vous avez entre ces médias, vous avez aussi d'autres médias qui sont un peu plus tolérants, qui sont un peu plus ouverts à la liberté. Je pense notamment à un média comme Radio Capi, qui est très, très, très ouvert, qui essaie de faire son travail avec beaucoup plus d'efficacité et de liberté. En tout cas, plus de liberté que les autres. Parce que même là, il y a certains messages qu'on ne peut pas faire passer sur les médias de la paix. Il y a cette contrainte éditoriale qui essaie d'encadrer la liberté d'expression. Alors, il y a aussi des médias comme la RFO, qui est une radio universitaire, qui ouvre, si vous voulez, qui accorde son micro à divers scientifiques et aux divers acteurs de tous les points de vue pour faire passer différents messages. Et ça, c'est important d'avoir cet espace-là qui permette. Et donc, c'est à chaque média et à chaque journaliste d'utiliser le moindre espace dont tu disposes pour user véritablement de sa liberté. Et si vous n'exercez pas votre liberté, personne ne va vous aider à l'exercer. Donc, c'est à chaque journaliste de le faire. Alors, vous avez aussi à quelques médias, j'allais dire très, très, très privés, quelques journaux qui sont là. En fait, c'est plus des publics reportages. Les gens achètent des pages. Et donc, selon votre capacité, vous achetez, vous dites ce que vous voulez. Et ça, ce n'est plus un média, ça. On ne peut pas parler de médias, ça devient des papiers de publicité, quoi. Ce n'est pas un média, ça. Pour moi, ce n'est pas un média, parce qu'un média, c'est plus que ça. Ça fait des analyses, ça donne des points de vue, ça donne des opinions qui sont un peu évaluées, tout ça. Si on fait passer quelqu'un, il fait écrire ce qu'il veut pour vendre son image, quoi, ce n'est plus un média, ça. Et puis, vous avez aussi quelques médias qui sont là, qu'on pourrait appeler communautaires ou... qui sont des médias des confessions religieuses notamment ou d'autres organisations de développement local comme la RTA ou comme la radio là des Anglicans. Vous avez un certain nombre de médias de ces gens-là ou la radio FDD ou celle qui émet à Isangi là. Donc vous voyez là, on a aussi d'autres types de médias qui essayent de faire également un métier dans ces contextes un peu difficiles à accéder. Donc ça, c'est des efforts qui méritent de saluer.
Voilà, c'était là le professeur Maindo, qui est enseignant des sciences politiques ici à l'Université de Kisangani. Vous l'avez suivi, il a fait une analyse, il est parti des médias publics et des médias privés pour chiter à la presse écrite, que vous n'avez pas ici jusque-là évoqué la situation au niveau de la presse écrite. Et là aussi, il a dénoncé aussi les comportements même, les attitudes adoptées des journalistes qui travaillent dans ces différents médias. Et je crois que son analyse ne s'écarte pas totalement de ce que vous avez fait ici, Ernest.
Oui, Laurent, moi je salue le caractère très pointu de l'analyse du professeur Maindo vis-à-vis de notre profession. Je suis tout à fait d'accord avec certaines de ses observations. Bien sûr, nous pourrions revenir sur ça parce qu'il a des citations très intéressantes et qui interpellent à la fois les professionnels des médias et surtout les promoteurs. Mais là où peut-être je voulais commencer par, c'est que qui semble être un peu... qui ne tient pas compte de mon appréciation personnelle, c'est le problème de public reportage. Ce n'est pas une faute professionnelle lorsque c'est bien mentionné au départ, que ce soit à la presse écrite ou radio ou télévision. Vous le dites, ça c'est un public reportage. Ce n'est pas une faute professionnelle. Ça devient une faute professionnelle lorsque on fait du mélimélo.
Et là, vous l'avez suivi dire que bon, dans ces publics reportages, quelqu'un achète une page, il dit n'importe quoi. Est-ce que quelque
part, là, ce n'est plus
les journalistes et les
ça,
journalistes
c'est de la publicité déguisée. Ma Gloire a parlé ici du clientélisme. Ça, franchement, c'est quelque chose qui n'honore pas la profession, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez dans un journal un article apparemment qui doit avoir été rédigé dans un cabinet politique ou bien dans un bureau d'un dignitaire, et ça n'honore pas, ça c'est sûr, ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais les publics reportages, ça fait partie des éléments, des ressources financières pour un média. Et c'est reconnu mondialement dans la loi qui régit la presse. C'est reconnu, il y a plusieurs entrées pour faire vivre un média, notamment les publics reportages qui ont une forme d'une publicité, mais rédigée professionnellement, là où on suppose que les journalistes doivent avoir usé de ses talents professionnels pour arriver à mieux communiquer en ayant un penchant au bénéfice de la personne qui est commanditaire du reportage. Mais il ne ment pas, n'est-ce pas? Il ne va pas à l'encontre des principes déontologiques. Mais c'est juste un peu du tonis, il n'y a pas assez de contradictions dans ce genre de reportages, mais on rend compte de ce que la personne vous a raconté. Et on essaie d'élaguer tout ce qui peut créer de la contradiction, parce que le public reportage peut remettre en cause la probité même du journaliste, et pourquoi pas du média. C'est pourquoi on demande vraiment qu'il y ait plus du rigueur.
Magloire,
oui,
dis-moi par rapport
à... En tout cas, j'ai suivi le professeur. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse aux médias parce qu'il a fait une analyse très très bien.
Oui, un tableau bien fait.
Pour juste compléter ou bien aller dans le même sens que le professeur, j'aimerais dire que la liberté d'expression, la liberté de la presse n'est pas une fin à soi. C'est un idéal à atteindre. On ne l'a jamais atteint. Parce qu'il n'y a aucun média au monde qui va se dire qu'il est totalement impartial. Non, non, non. Je crois qu'à un certain niveau, il y a toujours des petites fautes, des petites erreurs qui se glissent. Mais nous devons, autant que faire se peut, faire en sorte que nous fassions, que nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour que le métier ne soit pas sué tel qu'il est pour le moment. Moi, je crois que c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, le professeur a peint un tableau très, très, très bien du monde médiatique. Même en parlant de public reportage, il dit que pour lui ce ne sont pas des journaux, mais moi je crois que le public reportage c'est officiel, c'est connu, ce sont des moyens qui permettent de renflouer aussi le caisse des médias. Donc il n'y a aucune faute professionnelle, mais ce qui est vrai, nos journaux ici à Kisangani sont très pauvres, très très pauvres.
Je voulais paraphraser le professeur Alphonse, lorsqu'il a abordé la question des clauses de conscience, n'est-ce pas? Ce n'est pas un chèque en blanc qu'on doit proposer aux journalistes parce que je suis mal payé, je peux fouler aux pieds les normes professionnelles. Vous voyez, on ne peut pas se ruer sur les sources d'information pour prétendre notre précarité du travail. La course de conscience, je crois bien, c'est une culture à pouvoir imprégner, n'est-ce pas, dans les chefs des journalistes pour que chacun de nous puisse parvenir quand même à honorer la profession. Il a abordé aussi la question d'user véritablement de sa liberté de la presse. Ça, c'est sûr. Et pourtant, c'est la connaissance, c'est la maîtrise. C'est lorsqu'on accumule des connaissances, des techniques journalistiques, qu'on pourra nous-mêmes être les premiers défenseurs de liberté de la presse, en respectant les normes.
Voilà, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Et là, c'était une analyse par rapport à la situation de la liberté de la presse ici en province orientale, à province de la Tchopo. Mais avant de passer à la deuxième partie, mais jusque-là, on abordait seulement la situation au niveau de la ville de Kisangani. Est-ce que vous n'avez pas des éléments par rapport à ce qui se passe à l'intérieur?
Oui, Laurent, je l'avais dit que j'aimais bien aborder Kisangani parce que c'est mon milieu de travail, mais cela ne nous empêche pas de citer d'autres coins de l'ancienne province orientale. Prenons le cas, par exemple, de la province de l'Ituri. Il y a aussi des histoires qui se commettent là-bas qui ne sont pas tolérables par rapport à nous qui sommes de ces métiers. Il y a tout récemment, vous l'avez appris, un journaliste qui avait été tué, son corps a été retrouvé 3 ou 4 jours après. Je crois qu'il y a des histoires qui se passe dans l'ancienne province orientale, qui doivent interpeller les journalistes. Et donc, paraphrasant aussi le professeur qui a fait une analyse, la situation dans le reste de l'ancienne province n'est pas totalement différente de ce qui se passe dans la ville de Kisangani. C'est presque la même chose, il y a les mêmes habits, il y a les menaces, il y a les enlèvements, il y a des tueries, il y a des assassinats, et ça ce sont des signes qui prouvent à suffisance que la liberté de la presse n'est pas respectée dans notre pays.
On a dit qu'à Bassoko, il y a même un journaliste qui ne vit plus à Bassoko, il est obligé, suite aux menaces, de quitter Bassoko pour vivre ailleurs.
Ah oui, ça c'est sûr, nous avons des correspondants, donc nous, c'est NEPAD, nous avons des correspondants à Bassoko, à Yangambi, à Isangi, dans presque tous les territoires. Et là encore, c'est pire. Parce que les gens se permettent d'arrêter un journaliste en cours de route et commencer déjà à lui donner des injonctions. Comme ça s'est fait ici à Kisangani, vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? Il y a un député, mieux connu, n'est-ce pas? Qui s'est permis de s'acharner sur les journalistes, de lui donner des leçons. Les dossiers ont été même au niveau de la commission.
Et puis de quelle manière?
Mais de quelle manière, n'est-ce pas? Voilà, lorsque des dignitaires, lorsque des personnes, des personnalités de ces rangs, un député qui peut se permettre, qui est censé connaître la loi, n'est-ce pas? Qui régit la presse, il sait très bien, lorsqu'on se sent lésé, on doit suivre la procédure. Mais il se permet d'interpeller les journalistes dans un couloir et commencer directement à les vilipender. Voyez, et tout ça, ça s'est fait aussi dans les milieux reculés.
Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Que faire maintenant pour jouir de la liberté de la presse? Il y a même des instruments juridiques hein, dans notre pays qui garantissent cette liberté, Magloire. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Ah, ça c'est un problème très très sérieux. Je crois que le pays a mis en place une institution qui devra veiller à la liberté de la presse et laisser ça. Le conseil truc machin, mais je me dis, est-ce que cette institution fait son travail, parce qu'on devra partir de là. C'est cette institution qui devra normalement garantir la liberté de l'expression, la liberté de la presse, mais il ne le fait pas. Comme l'institution, le CESAC ne le fait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il faut partir de marquer un premier pas par des séances de vulgarisation et de sensibilisation des journalistes. Ça se fait déjà, mais il n'y a pas une police qui fait à ce que les acquis de ce qui s'est fait déjà, les formations, les sensibilisations, les vulgarisations, il n'y a pas une police qui puisse suivre ça de près pour que cela demeure. Et toutes les institutions qui doivent s'occuper des journalistes, entre autres l'UNPC, l'OMEC, c'est ça que je l'ai cité, ne font pratiquement rien. Et les journalistes se retrouvent dans des erreurs qu'ils croient que ce sont des erreurs qui sont devenues des choses normales, des fautes qu'ils croient que ça vaut la peine de le faire parce qu'on ne les poursuit pas, parce qu'on ne les attaque pas. Je crois qu'il faut que la police, les institutions qui assurent la police des médias, puissent passer par une force de coercition. C'est-à-dire imposer aux journalistes une ligne de conduite et sanctionner au besoin.
Laurent, moi je vais intervenir en amont et en aval. La grande difficulté pour notre pays, c'est au niveau de l'arsenal juridique. Vous voyez, il y a encore de ces articles de loi, n'est-ce pas, qui favorisent, qui poussent les gens, les dignitaires, leurs collaborateurs à s'acharner sur les journalistes.
Par exemple, les restes.
Voilà, n'est-ce pas? On n'est pas là pour décortiquer cette loi, mais je dis bien, de par beaucoup d'analyses qui sont faites, on sait bien, notre arsenal juridique nécessite une actualisation pour que notre pays soit parmi les nations exemplaires sur le plan juridique, sur le plan des lois. Au second niveau, c'est l'accès à l'information sur la profession journalistique. Beaucoup de nos autorités, j'ai comme l'impression, moi comme un observateur des médias, nous avons comme l'impression qu'il y a nécessité d'apporter l'information sur les pratiques professionnelles du journalisme. En instituant des genres, des journées portes ouvertes, il y a des rencontres des plaidoyers, là où nous allons les faire au plus haut niveau des institutions, au niveau de la province. Ça commence par la sécurité, les institutions politiques, pourquoi pas aussi de l'administration publique. Et dans chacune de ces institutions, qu'il y ait un échange. Et on apporte la loi. et les cours d'études de déontologie professionnelle. On met à leur disposition.
Par rapport à votre premier point que vous avez évoqué, est-ce que vous ne pensez pas, comme a dit le professeur tout à l'heure ici, que non, la liberté ne se donne pas, mais ça s'arrache.
Bien entendu, c'est pour cette raison.
Alors, dans ces cas-là, il y a déjà la Constitution qui est là, qui garantit cette liberté. Est-ce que vous ne voyez pas que ça revient à nous, journalistes, maintenant, de voir comment on peut maintenant s'approprier cette liberté?
Bien entendu, il y a des organisations sérieuses du journalisme, de la profession, qui militent jusqu'à présent pour une loi sur l'accès à l'information. C'est une lutte qui est menée par les organisations professionnelles. De toute façon, on ne croise pas les bras. Et malheureusement, cette loi sera en train de traîner dans les tiroirs, n'est-ce pas, au niveau du Parlement. Oui, c'est déjà une lutte. L'autre exemple de la lutte a sa lieu d'ailleurs à la province sœur ici, au sud Kivu. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cet édit. Cet édit qui porte sur la sécurité des journalistes. Donc au niveau de la province, les députés provinciaux se sont convenus pour qu'on puisse davantage garantir, renforcer les mesures sécuritaires afin que les journalistes puissent vraiment bénéficier de cette sécurité. C'est parmi les exemples à suivre. Et demain, peut-être, ça sera le cas ici chez nous dans la province de la Tchopo, là où les organisations, les instances de régulation et d'autorégulation des médias pourraient s'entendre et chercher à arracher la confiance ou bien la complicité d'un député ou d'un groupe de députés pour qu'ils arrivent à accepter d'abord l'accès à l'information. Nous pouvons proposer un édit ici localement. La loi nous l'autorise. Ça donne cette brèche-là. L'accès à l'information.
Il y a aussi des démarches qui ont été faites par rapport à la dépénalisation des délits de presse.
Ah, c'est une autre lutte. Parce qu'on ne peut pas arrêter un journaliste au même titre qu'un vendeur de beignets parce qu'il a juste donné l'information. Même ici, cette information s'avérait fausse par certaines opinions. Mais il ne mérite pas la prison pour ça.
Oui, je sais, vous allez réagir par rapport à l'intervention d'Ernest. Mais il y a autre chose quand vous avez dit, par exemple, que non, voilà, il faut sensibiliser les journalistes, les différentes organisations qui militent pour les droits des journalistes doivent se mettre debout pour sensibiliser les journalistes. Oui. C'est une bonne chose. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que non, par exemple, pour les cas des propriétaires des médias, qui sont par exemple politiciens, un effort ne peut pas être fait de ces côtés-là pour aussi les sensibiliser, pour qu'ils comprennent comment fonctionnent les métiers.
Laura, je crois que lorsque je parle de sensibilisation, de vulgarisation des textes, ce n'est pas seulement les journalistes, les politiques, les promoteurs des radios compris. Parce que tout le monde doit comprendre ce que dit le texte pour que cette liberté soit laissée aux journalistes. Mais j'interpelle en même temps et les promoteurs et les politiques et les journalistes eux-mêmes. Parce qu'il y a de ces journalistes qui subissent des menaces, qui sont maltraités, qui ne veulent pas dénoncer, qui cachent l'information. Et ça désarme les corporations, ça désarme les journalistes pour dénoncer, pour attaquer. Quand je dis attaquer, c'est-à-dire chercher à arracher cette liberté. Tout récemment, le cas de la RTNC qui a été évoqué, personnellement, j'ai été voir les concernés qui ont caché les formations, qui n'ont pas voulu donner la vraie information pour permettre aux journalistes d'agir. Il y a récemment un des journalistes de la radio OPED, vers les années, je crois, 2008-2009, il avait été victime de menaces de la part d'un gouverneur de cette province, devant, aussi au vu de tout le monde. Mais le journaliste lui-même n'a pas voulu donner la vraie information. Mais comment voulez-vous que nous nous battions pour des gens qui ne veulent pas se défendre? Là, il y a un problème. Et s'il faut sensibiliser les promoteurs, il faut commencer dès la mise en place des médias. Quelqu'un se met en tête l'idée de faire un média, il ne sait même pas les gens à engager. On prend de n'importe qui, de n'importe quoi, déjà qui n'ont aucune notion en journaliste, qui n'ont aucune notion de déontologie, on les place là-bas. Et c'est normal que cette média, et ces médias-là plutôt, ne saura pas quoi faire pour défendre la liberté d'expression ou de la presse. C'est clair que ces médias sont des caisses à résonance, des promoteurs. Moi, je crois qu'à un certain niveau, il faudrait une sensibilisation à double volet. D'abord, qui peut instaurer un média en fonction, essayer de les outiller davantage. Parce que les journalistes eux-mêmes ne savent pas où commence leur liberté et où elle se termine. Parce que quand on dit liberté d'expression, liberté de la presse, les journalistes croient qu'il faut dire n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Et là aussi, les journalistes devront vraiment faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans les délits de presse, dans ce qu'ils qualifient de liberté de presse.
Ce qui nécessite une formation pour les journalistes.
Voilà. Il y a un aspect très important Je crois bien que ma gloire l'aurait déjà éclairé. Ici, il y a un problème de sous-information. Vous savez, les manifestations d'atteinte à la liberté de la presse ne sont même pas connues, n'est-ce pas? Les manifestations physiques, les différentes atteintes à la liberté de la presse ne sont même pas maîtrisées par les professionnels des médias. Ça, c'est une autre lutte. Il y a de ces journalistes, il y a de ces professionnels des médias, donc hommes et femmes, qui ne savent pas. C'est que ça représente une pression administrative. Ça fait partie des 8 ou 9 atteintes à la liberté de la presse. Ça, c'est une, c'est la lutte. Dans l'avenir, les corporations, les partenaires à la presse pourraient aussi, et notamment la Monisco, Internews, ils pourraient aussi donner assez de moyens pour que d'abord les professionnels des médias eux-mêmes soient au courant de ce qui est illégal, ce qui est atteinte à la liberté de la presse. En second niveau, c'est la solidarité. C'est la solidarité, vous l'avez évoqué, entre journalistes.
Oui.
Vous savez, lorsqu'on en parle, nous avons plus de chances que cela ne puisse pas se répéter. Mais lorsque ça se tue, demain, ça sera nous trois ici.
Oui, justement, c'est pourquoi je demande que les journalistes victimes de ces cas puissent les dénoncer. S'ils s'enferment, on ne sait pas les aider.
Et ça dépend aussi, il y a certains qui vont protéger leur poste. Hein.
Voilà, on va suivre maintenant les points de vue du professeur Mahind.
Si on veut promouvoir la liberté de la presse, il faut l'exercer. C'est aux professionnels des médias d'exercer leur liberté, de commencer à la pratiquer. Parce qu'il n'y aura personne, comme je le disais tantôt. Le seul moyen, c'est de pratiquer ça. Deuxième chose qu'il faut faire, eh bien, les médias semblent souvent ignorer le pouvoir immense dont ils disposent. Ce n'est pas pour rien que dans certains endroits, on parle de quatrième pouvoir. C'est pour souligner que la capacité d'influence des médias peut emporter des régimes assez forts, puissants, peut les emporter en évoquant, en soulevant des scandales, tout ça. Les médias peuvent donner existence à un problème que la population va prendre à bras le corps et ça peut bousculer, ça peut bouger les institutions en place, ça peut bouger les autorités en place. Ça fait le faire bouger pour changer les manières de faire, pour changer les manières de voir les choses, pour changer les manières d'être, les manières de gérer la société. Alors, vous les médias, vous les journalistes, vous avez ce rôle-là à jouer. Et alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est que lorsqu'il y a les journalistes, chacun pris isolément, ils peuvent être fragilisés. Mais il faut renforcer votre corps de journaliste, que ce corps-là puisse fonctionner, être effectif pour être comme une espèce de syndicat pour défendre ses membres qui seraient menacés dans le récit de leur métier pour éviter qu'on puisse en arriver à des situations où les gens sont inquiétés, arrêtés ou même assassinés. N'oublions pas que le Congo a atteint des sommets en termes d'atteinte à cette liberté, y compris l'assassinat des journalistes. Et si vous lisez les rapports de journalistes en danger ou les rapports de journalistes sans frontières, reporters sans frontières, on voit bien qu'il y a des vrais problèmes. Le Congo est parmi les pays qui sont le plus touchés par les atteintes à la liberté de la presse et d'expression de manière générale. Alors, l'autre élément sur lequel on devrait appuyer, c'est d'utiliser les instruments juridiques qui sont à notre disposition, la Constitution, les lois et les instruments internationaux auxquels le Congo a volontairement souscrit pour faire des actions judiciaires contre ceux qui violent la liberté de presse, la liberté d'expression des journalistes.
Magloire, un petit mot.
Je crois que le professeur a donné sa façon de voir les choses. C'est vrai que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Mais c'est pas parce qu'on dit que la presse est le quatrième pouvoir qu'on doit aller en guerre contre le politique, contre les autres pouvoirs. Je crois qu'il faut composer. Il faudrait que le journaliste puisse amener les acteurs politiques, tous ceux qui évoluent dans un environnement social, à compter désormais avec la presse. C'est-à-dire, la presse c'est pas un ennemi, c'est plutôt un ami avec qui il faut composer. Et nous, journalistes, nous ne devons pas nous dire parce que nous sommes au quatrième pouvoir entre guillemets, nous devons lutter contre les trois qui existent. Non, je crois que c'est question de voir comment se mettre ensemble essayer de trouver des mécanismes et que les autres pouvoirs puissent donner aux journalistes la chance de les approcher, de les côtoyer, afin que le monde puisse marcher comme il se doit et ne pas être en guerre, non.
Et là, j'ai suivi même une interview qui m'a intéressé pour dire que non, s'il y a par exemple des cas de violation, si on est uni, on est dans un corps, on peut même traduire les violataires là vers les instituts, vers les tribunaux. Qu'en pensez-vous?
Parce que oui, c'est membre des, clair, du NPC. Je crois, c'est ce qui a été évoqué il y a quelques minutes par Ernest, la solidarité entre les journalistes. Lorsqu'il y a un problème, il ne faut pas se présenter d'une manière isolée. Il faudrait faire un bloc, un groupe, et là, on pèse et on peut faire vraiment pression. C'est vrai que les journalistes, comme tout Congolais, ont le droit de porter plainte. Ils peuvent porter plainte lorsque ces droits sont bafoués, lorsque ces droits sont atteints. Mais je crois que c'est toujours bien de les faire dans le cadre d'une corporation, d'un groupe, pour bien peser. Seul, on risque de perdre la bataille.
Ernest. Oui, Laurent, la mutualisation des efforts, ça constitue une force de plus. Et ce qui pêche jusqu'à présent chez nous, n'est-ce pas? Magloire a abordé la question du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous avons l'Observatoire des médias congolais. Nous avons l'Union nationale de la presse du Congo. Nous avons des organisations de défense des droits des journalistes, notamment MEPAD. Il y a aussi GED qui a une représentation ici, n'est-ce pas? Il y a aussi les syndicats des journalistes. Donc toutes ces corporations, toutes ces organisations, les jours où ils vont comprendre les notions de la co-régulation, nous pouvons réduire la vulnérabilité des journalistes vis-à-vis des attaques. Vis-à-vis
là, nous tendons vraiment vers la fin de l'émission, ça sera déjà votre conclusion.
Oui, le prof a abordé une question très importante, faire bouger les choses. C'est ça le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, c'est pas honorer, c'est pas chanter les gens au micro.
Non.
Le quatrième pouvoir, c'est faire bouger les choses. Si ce que les journalistes disent, ça n'a pas d'impact sur la vie des politiques, de la vie de toute personne qui est revêtue d'un pouvoir public. N'est-ce pas?
Ouais, on a inutile. On a vu avec les consortiums des journalistes d'investigation.
Voilà. Et là, ça bouge. Ça
avec
fait bouger,
les Panama Papers.
N'est-ce pas? Alors, quel jour ici chez nous on va démettre un ministre? Quel jour ici chez nous on va interpeller un mandataire public ou bien un bourgmestre, un chef de quartier à cause du reportage d'un journaliste? C'est ça, faire bouger les choses. Et fort dommage, le quatrième pouvoir souffre encore ici chez nous.
Nous sommes à la fin de l'émission. Magloire, une petite conclusion.
Oui, Laurent, la liberté d'expression, la liberté de la presse est bafouée en République démocratique du Congo. Et je crois qu'il est des devoirs de journalistes eux-mêmes, des organisations qui défendent les droits des journalistes, de faire en sorte que les choses puissent aller mieux demain. Mais aux journalistes aussi de ne pas ou confondre liberté et libertinage, et de savoir que nos libertés se terminent là où les libertés des autres commencent. Je crois qu'il y a encore un combat à mener, et ce combat, on ne doit pas le mener dans les désordres, c'est en étant unis qu'on pourra produire un bon fruit.
Je peux ajouter quelque chose, juste un mot, Laurent. Allez-y. Les sanctions doivent suivre. Le peu de dénonciations qui sont faites, si nos corporations, avec l'association des organisations de la société civile, nous pouvons commencer à demander des sanctions exemplaires. Et ça pourra faire changer les choses.
Voilà, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. La liberté ne se donne pas, mais s'arrache. Et comme a dit un des intervenants, c'est à nous, professionnels des médias, de nous souder en formant un corps pour jouir de cette liberté. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai dit merci à Magloire Bolunda.
Merci Laura Kangisa, merci à tous.
Merci à Ernest Mukuli.
Ça a été un grand plaisir pour moi, Laurent.
Nous disons aussi merci à Sosten Simba qui a réalisé cette émission et à vous tous qui nous avez suivis partout chez vous. Au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.
Le même rituel sanglant, autant en emporte le vent, le sang.